Ici, la voix de la majorité silencieuse. Jamais la rue ne pourra déchirer mon bulletin de vote.
Bonjour, France Inter en boucle, les usagers en colère, les travailleurs privés de leur activité à cause de ces sales grévistes. Grève impopulaire, le 7-9 me fatigue. Moi, je suis solidaire des grévistes et je les remercie de se battre encore et toujours pour eux et pour nous. Heureusement qu'il existe encore des poches de résistance. Mais ne nous inquiétons pas, continuons à nous plaindre et à jeter l'anathème sur ces salauds de grévistes. Notre attentisme accouchera enfin peut-être de ce que nous voulons, au fond de nous. Parce que quand ça ne bouge pas, qu'il n'y a pas de heurts, pas de communication, pas de désir, pas de lutte, ça porte un nom. Ça s'appelle la mort. Merci de laisser encore un espace pour dire ces choses-là. Merci. C'était Thibaut de Nogent-sur-Seine.
Bonjour à tous et toutes. J'appelle pour infliger une mauvaise note à l'élève d'Arcos qui prépare la grève des enseignants de la semaine prochaine, notamment basée sur les salaires et l'emploi, mais notamment sur les salaires. On se souvenait que Copé, le sublime énarque et ministre du budget, avait estimé que le salaire des enseignants était de plus de 4000 euros, hein. Eh bien, Darcos, lui, a fait un calcul assez étonnant hier soir sur France 3. Il a dit qu'un professeur qui gagnait 2000 euros mensuels, grâce aux 2 heures supplémentaires défiscalisées, donc la version Sarkozy, eh bien, passerait à un revenu mensuel de 2600 euros. Et ce brillant Darcos a considéré que 2 heures sup, ça rapportait 300 euros par mois, 2 heures sup par semaine, bon, ce qui resterait à démontrer, et également que ça rapporterait, dans le contexte de la défiscalisation, 300 euros d'impôt sur le revenu en moins. Évidemment, les 300 euros d'impôt sur le revenu, c'est annuel. Il n'a pas hésité pourtant à dire que ça correspondrait à un salaire de 2600 euros, soit une augmentation de salaire de 30%. Voilà comment Darcos manipule les foules. Et évidemment, l'excellente journaliste Christine Ockrent, qui n'a sûrement pas à se plaindre des allègements sur l'ISF, n'a pas corrigé. Merci de votre attention pour ces fastidieux calculs et bonne grève à tous.
Bah, finalement, la droite, elle est très maligne, elle s'en sort bien. Si on se rappelle les mouvements de 95 avec l'opinion publique qui était derrière les gars qui faisaient grève et tout. Bon, 12 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens ont accepté. Les gens ont accepté le discours libéral, disant qu'il fallait rogner sur tous les principes sociaux et puis que la mondialisation, ben, on ne pouvait pas l'éviter. Donc, je me rappelle très bien la campagne de Chirac en 95, parlant de la fracture sociale, les pauvres et tout. Donc les gens avaient dit, bon, on va voter Chirac, c'est quand même mieux que Balladur. Puis 90, puis alors tout de suite, Juppé, tête à queue, ah ben oui, on vous avait dit ça, mais on va faire autre chose. Alors là, révolte, ok, les mouvements magnifiques et tout. Mais 12 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le Chirac, il a patienté 5 ans, il a laissé Jospin s'enferrer, il lui a fait faire l'euro, et puis boum! Campagne sur l'insécurité, il pique le boulot de Jospin. Puis maintenant, c'est Sarko qui est encore pire que tout. Ben, la droite, Chirac, il a maintenu la droite. La gauche, elle n'arrive plus jamais à redevenir majoritaire. Ben oui, en 12 ans, ils ont progressé, les mecs.
Oui, bonjour, c'est Emmanuel de Paris. Eh bien, je voulais dire, Monsieur Mernet, avec qui je suis pas souvent d'accord, parce que je crois qu'on n'est pas du même bord politique, que tant qu'il dénoncera la guerre comme il le fait, je viens d'écouter là, les 3 volets de la chanson de Crâne, eh ben, tant qu'il fera ça, je l'applaudirai, et j'espère qu'il continuera encore à le faire, y compris sur les guerres actuelles. Voilà, en ça, vraiment, on est d'accord. Je crois qu'il n'y a pas pire que ce genre de genre de choses. Voilà, merci à lui pour ses émissions.
D'accord, merci, d'accord sur Crown, mais être d'accord sur Crown, c'est être d'accord avec les mutins de 1917. C'est être d'accord avec la contestation, avec la transgression, avec des gens, des hommes qui étaient minoritaires, archi-minoritaires. On aurait fait un sondage d'opinion lors des mutineries de 1917. Évidemment que ces mutins auraient été, mais plus que minoritaires, auraient été vus comme des assassins, des traîtres à la patrie, que sais-je encore. Voilà qui devrait encourager. protéger ceux qui, dans les sondages, sont minoritaires aujourd'hui, si j'en crois les échos qui me parviennent jusqu'ici à Bogota, en Colombie, où on nous dit, oui, les sondages indique que les Français, il y a une légère majorité de Français contre ces grèves. Eh bien, ces grévistes et ceux qui vont manifester ces jours prochains, relèvent de ce sentiment de transgression de ce mouvement de contestation et d'opposition sans lequel il n'y a pas de vie démocratique. Et souvent, cette vie démocratique, cette vie républicaine, elle vient de la rue, très souvent. Elle est venue de la rue, elle vient de la rue et elle viendra de la rue. On va en parler dans la rediffusion d'aujourd'hui, une rediffusion d'une émission intitulée « Le pouvoir est dans la rue », revue et corrigée par l'équipe de La Passe, si j'y suis. C'est le programme du jour. Nous, on est toujours à Bogota, Colombie. On continue cette suite de reportages qu'on vous présentera dans les semaines prochaines. D'ici là, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de La Passe, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et puis, le pouvoir est bel et bien dans la rue.
Bonjour. Le Venezuela vous intéresse ? Préparez-t-il le papier, parce qu'il y a deux membres de l'association libertaria du Venezuela qui sillonnent la France pour débattre des vidéos indépendantes sur les luttes indigènes et aussi pour parler de leur projet. Ça se passe peut-être près de chez vous. Pour le savoir, tapez acultura.org. A-C-U-L-T-U-R-A. Au revoir.
Salut Daniel, salut à tous les AMG, c'est Pascal Dumont. Ce matin, pour la première fois, j'ai un sentiment bizarre en écoutant ma radio préférée. Sentiment qu'elle est un peu manipulée pour la première fois. J'ai ce sentiment-là en l'écoutant, aux informations de 7h30. On entend parler des grévistes du Guilvinec auprès de qui Nicolas Sarkozy, notre petit Nicolas Teigneux, est intervenu. Et on entend d'un autre côté des sondages, des interviews d'usagers dans la rue à propos des grèves SNCF et RATP, que des témoignages négatifs. Des gens, il y en a ras-le-bol, de devoir prendre des jours de congé, c'est pas normal, c'est une grève injuste, etc. Les usagers sont pris en otage. Alors que d'un autre côté, quand on parle des pêcheurs, on ne fait que valoriser l'action du président qui a sorti du mauvais pas ces malheureux forçats de la mer qu'on laisse mourir au-delà des 40e rugissants. Donc, danger. J'ai l'impression que France Inter commence à être un peu manipulée. Salut à tous, bonne journée.
Alors j'appelle Pierre Lantenac. Pierre Lantenac.
Tous les ouvriers devraient apparaître.
Allô, Pierre Lantenac.
Allô, à toi. L'antenne ?
Oui, tu l'as.
Eh bien, Pierre Lantenac ici. Je suis toujours rue Saint-Jacques et je dois dire que la tension qui tout à l'heure déjà était très grande, cette tension ne l'a pas baissée. Les étudiants sont en train de relever une autre barricade à l'intérieur de la rue Saint-Jacques afin d'éviter d'être tournés. Quant à la rue du Sac, eh bien, je crois que c'est l'axe principal de l'effort que mènent les
d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers. Nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas.
On est arrivé en l'an 2000, on va sur la Lune. Vous vous rendez compte un peu ?
Où est-ce qu'on est, là hein?
Salut, c'est Daniel Mermet avec Daniel Tartakovsky. Là-bas, si j'y suis, le pouvoir est dans la rue.
Flight number 2, arriving.
La France en français ! 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 La France en français !
La barricade ferme la rue et ouvre la voie aujourd'hui. Jour de manif dans la basse. J'y suis, la manif, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Qui l'a fait? Depuis quand? Après tout, on raconte l'histoire avec des dates de bataille. Pourrait-on raconter l'histoire avec des manifs? Insurrection, émeute, attroupement, rassemblement. Si on dit manif, vous pensez à Nation, Bastille, République, mais il y a aussi Jeanne d'Arc, par exemple. Il y a aussi les Champs-Élysées, gauche, droite, classe ouvrière ou bourgeoisie. On manifeste beaucoup dans notre cher pays. Égoutiers, policiers, pompiers, magistrats, infirmières ou retraités, ou Gay Pride. C'est un théâtre, c'est un rituel avec banderoles, slogans, pancartes, sonos, déguisements, pièges à télé. On manifeste beaucoup chez nous, mais ailleurs aussi. Souvenez-vous, Tiananmen 89, Belgrade, hiver 96, Séoul 95, Belgique 96, Buenos Aires 95, Ushuaia, oui, on y était en 1995, à Moscou en 91. Souvent, ensemble avec vous, nous étions à la manif du CIP au sans-papier, du plan Juppé aux marches de chômeurs. Qu'est-ce qu'on veut manifester quand on manifeste? Force de désordre contre force de l'ordre, le social contre le national, le peuple contre le pouvoir. En croyant se battre contre les politiques, la manif est un fait éminemment politique. C'est, pour simplifier beaucoup, ce que dit Daniel Tartakovsky, qui est historienne, qui est professeur à l'université de Paris 8 et qui a publié en 98 un ouvrage passionnant sur les crises politiques et manifestations en France qui s'appelle évidemment « Le pouvoir est dans la rue ». C'est avec elle qu'on va passer cette heure de manif, en se demandant s'il n'y a pas un art véritablement de la manif, et puis si après tout, tout ça n'est pas simplement un signe de bonne santé démocratique. On le sait, ce n'est qu'un débat.
Levez-vous, tout le monde, levez-vous, levez-vous. Après.
Comment vous définissez votre travail ?
Mon travail porte essentiellement depuis quelques années sur les formes non institutionnelles du politique, mais des formes qui, pour être non institutionnelles, sont néanmoins capables d'infléchir le politique au plus haut point. Les manifestations, les fêtes, quelques enterrements, le mouvement associatif, bien sûr, aujourd'hui.
Mmh. Dans votre livre « Le pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestation en France », vous commencez par un constat sur les générations, mettons, depuis la guerre. Hein. Il y aurait une génération, bon, il y a évidemment la génération de la libération, il y a la génération de l'Algérie, il y a la génération 68, la génération Mitterrand. Et puis depuis 80, il y a une génération qui n'a plus ses grands repères, comme ça, ses grandes dates, et qui est la génération manif.
Et qui entre en politique à la faveur de manifestations qui deviennent très constitutives d'un certain rapport à la politique et de certaines formes d'organisation.
Alors, on peut raconter, vous êtes historienne avant tout, on a pu raconter l'histoire avec des dates de bataille. Est-ce qu'on pourrait raconter l'histoire avec les manifs, avec des dates de manifestations ?
On pourrait raconter une histoire,
pas l'histoire,
des manifestations. La question étant de savoir dans quelle mesure cette histoire spécifique des manifestations se confond avec notre histoire avec un grand H. Et à certains moments donnés de notre histoire contemporaine, il est clair qu'il y a forte coïncidence. Bon, certains moments tournants de notre histoire politique contemporaine, 1934, 1968, 1995 peut-être, sont rythmés par de grandes manifestations de rue qui ont quelquefois joué un effet absolument déterminant dans les formes de développement et de résolution des crises.
On nous laisse pas le droit d'avoir des rêves. Le gouvernement, il nous tue nos rêves.
On nous donne la possibilité de rêver. Quand on commence à rêver, on nous coupe tout sous l'herbe.
De toucher avec ton décret et toi, t'as trop fumé pétard. Va te coucher avec ton décret. Tous ensemble, ouais, ouais.
Il y a toujours eu des cortèges dans la rue. Les cortèges sont quelque chose d'international et sont quelque chose qui traverse absolument toutes les périodes. Donc on pourrait dire, il y a toujours eu des hommes dans la rue pour dire quelque chose dans la rue. Bon, en tout cas, il est bien clair que le 18e siècle français, le 19e siècle français est marqué par des émeutes, des insurrections qui se déroulent dans la rue. Dans quelle mesure peut-on introduire un fil continu entre ces mouvements de la rue et la manifestation ? Je pense personnellement qu'il faut introduire un phénomène de rupture et que la manifestation, au sens où nous en parlons aujourd'hui dans la vie politique contemporaine, naît avec le siècle.
Avec notre siècle.
Le siècle qui meurt, c'est-à-dire le 20e. En ce sens qu'on voit émerger, il n'y a pas d'acte de naissance, il y a un processus qui amène à passer d'un type de mouvement d'occupation de la rue à un autre type de mouvement qu'on peut appeler manifestation. On passe de formes d'action qui se donnaient comme des formes d'action directes. On descendait dans la rue pour obtenir du pain tout de suite, pour mettre à bas la tyrannie et pour détruire la Bastille.
89.
Donc, avec une volonté d'agir ici et maintenant. Et par là même, on descendait face à la cible, contre la cible. La manifestation...
Là, c'était une insurrection, là, c'est une émeute.
Quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que quelques-unes ne réussissent pas et donc ne restent pas dans l'histoire comme des insurrections. On parle de mouvement de la rue. Donc tous les mouvements de la rue n'ont pas capacité à devenir des insurrections qui réussissent ou qui sont aussi spectaculaires que la Commune. Mais ce qui me paraît distinguer notre rapport contemporain à la rue, c'est que depuis près d'un siècle, la manifestation est un moyen de penser autrement le temps du politique. On descend dans la rue pour grouper des forces qui énoncent une volonté, en sachant très bien que cette volonté, elles n'ont pas la capacité de la faire aboutir ici et maintenant. Et donc la manifestation, c'est une manière de gérer le détour nécessaire pour aboutir. C'est la prise de conscience que la plupart du temps, les rapports de force ne sont pas suffisants pour l'emporter ici et maintenant, et qu'il faut donc regrouper des forces, les capitaliser, faire en sorte que ces forces puissent transmettre leurs acquis partiels, puissent survivre à des défaites, quelquefois sanglantes, et continuer. Je crois que la manifestation est un moyen de faire circuler les acquis, les victoires partielles, la mémoire, l'histoire, et par là même de construire de la politique dans la longue durée.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Français, Françaises, je vous ai tout pris ou je vous ai compris. Le jour de grève est arrivé, la paix arrive, la préparation, la transformation d'un monde plus humain où il n'y aura pas d'exploitation, où il n'y aura plus cette merde académique organisée, où nous serons vraiment frères sur la terre avant de le devenir sous la terre. Le monde est mûr, frère, il faut mûrir. Nous pouvons nous exprimer. Quelle belle chose, pour une fois. Parler dans les rues, circuler sans être embêté, sans être ennuyé, sans être interpellé. Vos papiers, vos papiers, vos papiers. Toujours les papiers, les papiers, les papiers. Oh, les papiers, les papiers, les papiers.
Les frontières, on s'en fout. Les frontières, on s'en fout.
PRS, allez-y. PRS, allez-y. PRS, allez-y.
Alors,
on va se libérer la
sauver.
Petit raccourci de notre histoire par quelques slogans. D'abord la voix de Mouna, vous avez reconnu en 68 lors des manifestations de 68 et de ces petits cette foire à la parole qui a été mai 68. Et puis le tous ensemble ouais de 95 pour Daniel Tartakovsky, la manif puisque c'est notre sujet aujourd'hui, c'est penser autrement le temps politique, c'est faire de la politique. Alors vous vous dites, bien sûr, c'est la basse édition, on a compris. Et non, il n'y a pas que ce genre de manif-là. Il n'y a pas que ce genre de manif-là pour Daniel Tartakovsky. Il y a au moins quatre genres de manifs différents. Qu'est-ce qu'on fait quand on manifeste ? On se compte ? On existe ?
On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. J'avais essayé de réfléchir à une typologie des manifestations, à comprendre un petit peu comme un idéal type. Hein. Aucune manifestation n'appartient jamais à telle ou telle catégorie. Il me semblait que dans un pays comme le nôtre, et compte tenu des rapports que les révolutionnaires de 89 ont entretenus avec la rue, on a très grossièrement quatre grands types de manifestations. Il y a les manifestations où on construit l'image du groupe. C'est ce que j'appelle la manifestation procession. C'est la fête révolutionnaire, mais c'est le 1er mai, tout aussi bien. C'est la montée au mur des fédérés, c'est la fête de Jeanne d'Arc.
On se célèbre, là.
On se célèbre, et on se célèbre en empruntant aux formes de la fête nationale, le 14 juillet. Jules Guesde, ou un guédiste, c'est un guédiste, ce n'est pas Jules Guesde, disait peu de temps après l'invention du 1er mai, le 1er mai sera un contre-14 juillet. Donc faire comme le pouvoir républicain, mais faire autrement pour exister en tant que groupe distinct. De la même manière que Jules Vallès disait de la montée au mur des fédérés dans le cimetière du Père Lachaise que ça serait la Toussaint des travailleurs. Bon, donc construction du groupe, c'est incontestable, et cela vaut tout aussi bien pour la gauche, pour le mouvement ouvrier, que pour une extrême droite qui ne se reconnaissait pas dans la fête républicaine après la naissance de la République, donc la droite et Jeanne d'Arc. On peut manifester pour dire quelque chose, pour interpeller les pouvoirs publics, mais aussi bien le patronat, mais aussi bien un consulat étranger, c'est ce que j'appelle la manifestation pétition, qui peut s'accompagner d'un dépôt effectif de pétition, mais qui peut tout aussi bien être un message qu'on transmet par la voix de slogan ou par d'autres voies. Mais l'objectif est de se faire entendre. La manifestation que j'appelle insurrection, ce qui ne signifie pas qu'elle soit insurrectionnelle et violente, elle peut le devenir. C'est la manifestation où l'autre est appréhendé comme une cible à abattre le plus tôt possible.
Exemple ?
Exemple, bien évidemment...
34 ?
34, mais là on a un cas limite, puisqu'on bascule pratiquement dans l'insurrection à proprement parler. Mais pour prendre des exemples qui sont moins limites et moins violents, manifestation devant un consulat étranger pour protester contre l'assassinat de tel ou tel militant ou contre l'exécution de tel militant, il n'y a pas de discussion possible avec l'autre. On vient exprimer une réprobation, et ça peut d'ailleurs passer par des pierres lancées contre des carreaux. Enfin, c'est pas forcément la prise du palais d'hiver, mais ça peut passer par des actes qui sont des actes témoignant d'une violence ou d'un rejet. Et enfin, le quatrième et dernier type, il est extrêmement exceptionnel, et c'est un peu celui qui donne naissance au titre de mon ouvrage, « Le pouvoir est dans la rue ». Dans ce pays qui est le nôtre, c'est un pays qui a connu Valmy, la levée en masse, au moment de la Grande Révolution française, il arrive que le pouvoir ait besoin d'en appeler à la rue pour défendre quelque chose. Le cas le plus beau et qui m'a un petit peu donné l'idée de ce titre, qui était un titre à contre-pied,
étant dans la rue,
la manifestation du 30 mai 68, où De Gaulle et les gaullistes, qui ont pourtant le pouvoir, descendent dans la rue. Et grâce à cette manifestation, ou à cause de cette manifestation du 30 mai 68, donc la manifestation gaulliste des Champs-Élysées, vont être capables de mettre un terme presque final à la crise ouverte au début mai.
Effectivement, la voiture du général de Gaulle, précédée des motards, vient d'accéder juste devant l'hémicycle, face au podium. Et sous les acclamations, il gravit lentement la tribune. Il accède maintenant, les bras levés en V, selon son geste familier, devant la foule qui l'acclame. Et devant les anciens combattants des deux guerres, devant les représentants des forces françaises libres et des forces de l'intérieur, devant le peuple de Paris, devant les corps constitués, devant les représentants des assemblées, devant tous, il va maintenant à nous tous proposer.
C'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Jusqu'alors, au long des siècles, l'ancien régime avait réalisé l'unité et maintenu l'intégrité de la France. Mais tandis qu'une immense vague de fond se formait dans les profondeurs, il s'était montré hors d'état de s'adapter au monde nouveau. C'est alors que au milieu du drame national et de la guerre étrangère, apparut la République. Elle était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle est restée cela à travers les péripéties agitées de son histoire. Et aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure.
Mai 58, place de la République, à Paris, le général de Gaulle incarne bien ce moment d'une manif, un type de manif où le pouvoir est dans la rue. C'est pas du tout la rue qui a le pouvoir, c'est le pouvoir qui va se légitimer par la rue. Donc c'est une des formes de la manifestation du pouvoir qui descend dans la rue lui-même, la manifestation insurrection, la manifestation pétition et la manifestation célébration. C'est la typologie que Daniel Tartakovsky, notre invité, cette historienne, c'est cette façon de voir la manifestation. On voit que c'est pas rien, c'est pas seulement de vagues hurlements au coin d'une petite émission comme ça le soir aux 20h. C'est beaucoup plus que ça, c'est un fait politique. Et de gauche comme de droite, de riche comme de pauvre, tout le monde manifeste.
Attention, attention François, il y a un pavé.
En fait, la manifestation a été presque constitutivement un phénomène pluriclassiste et un phénomène de gauche comme de droite. Et quand on dit la droite, c'était une droite très particulière, dès lors que la droite française ne disposait pas de grands partis de masse capables de manifester, capables de ce type d'action politique. Jusqu'à des dates relativement récentes. Mais ce sont par les catholiques qui, au moment de la bataille pour la séparation de l'Église et de l'État, sont beaucoup descendus dans la rue, devant les portes des églises, pour empêcher que les inventaires ne soient dressés dans les églises. Et puis ces catholiques, on les retrouve très massivement dans la rue en 1924-25, au moment où le gouvernement de cartel des gauches décide de parachever la politique de laïcisation. Les manifestations catholiques de 25-26 sont les plus puissants rassemblements quantitativement que la France ait connu dans les années 20.
Ouais.
Donc, la droite, sous une forme extrêmement large, descend
parce que
moins...
catholique, c'est pas nécessairement de droite.
En 25, ils le sont. Non, bien sûr, ils ne le sont plus. En 25, ils le sont ouvertement et ils engagent la bataille contre la politique d'un gouvernement qui s'appelle le cartel des gauches. Donc, on a un conflit gauche-droite qui se structure sur la question de la laïcité. Ça s'est lié à toute une histoire nationale. Effectivement, la droite est constamment à redéfinir et les formes de la mobilisation de droite sont tout à fait variables. On pourra en dire un mot sur 1934. Ce qui est sûr, c'est que la droite, les droites, descendent moins souvent dans la rue que ne le font les gauches et le mouvement ouvrier, mais que quand elle y descend, c'est souvent dans des mouvements qui sont quantitativement très puissants et qui sont susceptibles d'effets politiques très importants.
Cherchons dans notre mémoire collective les précédents de ce genre, les jours où des foules énormes ont envahi les rues de Paris. Pour s'en tenir à la 5e République, on songe aux obsèques des victimes du métro Charonne en 1962, à la manifestation du 13 mai 1968 et à sa réplique de droite le 30 mai suivant. C'est tout. Ce matin, il faut ajouter à ce palmarès le rassemblement d'hier en faveur de l'école privée, ou plutôt, thème simplificateur mais hautement mobilisateur, la défense de la liberté. 850 000 personnes selon les estimations de la préfecture de police, 1 500 000 selon les organisateurs. Pendant 12 heures, de 9h du matin à 9h du soir, 4 défilés, partis des 4 grandes gares parisiennes, ont convergé vers la place de la Bastille. Une manifestation calme, sous un ciel changeant, avec des slogans le plus souvent limités à la défense de l'école privée. Les responsables de l'enseignement catholique ont tenu leur pari. Ils ont parfaitement su organiser et canaliser le rassemblement de plusieurs centaines de milliers de manifestants sans le moindre incident. Des débordements ont eu lieu, mais après la fin de la manifestation. Encore sont-ils le fait d'éléments qui n'ont que de lointains rapports avec les partisans de l'enseignement privé. Quelques dizaines de jeunes gens d'extrême droite, crâne rasé, treillis, blouson de cuir, gourdin à la main et boulon plein les poches. Une cinquantaine d'entre eux ont tenté de paralyser la circulation sur les Champs-Élysées vers 19h30. Ils ont été rapidement dispersés. Au quartier latin, en revanche, les incidents se sont prolongés tard dans la nuit. Les policiers ont eu beaucoup de mal à neutraliser des groupes très mobiles, qui tentaient de dresser des barricades avant d'y mettre le feu. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées. 8 policiers ont été blessés.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi du rituel, du théâtre de la manifestation. Les banderoles, les slogans, les chants, la déambulation, hein, on va de les lieux saints, que ce que vous appelez les lieux saints, c'est-à-dire que si on va de la nation à la République, c'est pas ou si on va au Père Lachaise, enfin si on va au mur des fédérés, c'est pas le même sens que si on est devant la statue de Jeanne d'Arc ou dans un autre endroit dans Paris, par exemple dans les déambulations. D'où viennent ces banderoles, ces slogans, ces chants? Je me dis que ça venait peut-être des bannières, des ordres ouvriers ou des corporations.
Oui, ça serait tentant. On avait été amené à réfléchir avec des collègues étrangers, on avait été amené à comparer les 1er mai en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique et en France, et on s'apercevait que finalement les marquages des manifestations ouvrières françaises étaient beaucoup moins spectaculaires et beaucoup moins beaux d'un point de vue plastique et beaucoup moins nombreux que ceux des manifestations des pays voisins. Tout à l'heure, je parlais du 1er mai dans son rapport au 14 juillet. On est dans un pays où la symbolique républicaine s'est très tôt, très vite constituée. Le 14 juillet, bien sûr, mais également le drapeau tricolore et la Marseillaise, avec le poids de ces symboles dans l'histoire politique nationale et dans les combats nationaux, le mouvement ouvrier français avait besoin de se démarquer. Et ça n'est pas par hasard si c'est ce mouvement ouvrier français qui invente des symboles destinés à devenir internationaux, l'international et le drapeau rouge. Alors c'est à la fois moins spectaculaire qu'ailleurs, parce qu'on répond à un drapeau par un drapeau, on répond à un chant par un chant. Au total, la symbolique française, jusqu'à des dates, jusqu'aux années 80, 1980, s'organise autour de 2-3 chants, 2-3 symboles. Donc c'est relativement pauvre. Mais c'est relativement pauvre parce que on répond à ce symbole unifiant qui a été le drapeau tricolore et la Marseillaise. Jusque dans les années 30, jusqu'au Front populaire, les marquages des manifestations sont beaucoup moins importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, ça tient à plusieurs choses. Ça tient d'abord à ce que la tolérance des manifestations est un fait, un phénomène qui met beaucoup de temps à s'établir. Et en particulier à Paris, jusqu'en 1934, les manifestations sont très exceptionnellement tolérées. Il est bien évident que c'est plus facile de déployer une mise en scène spectaculaire dans l'espace public quand on est toléré que quand on ne l'est pas. Pendant la guerre d'Algérie, quand les manifestations étaient non seulement interdites mais dangereuses, il est évident que dans le meilleur des cas, les manifestants parvenaient à déployer une banderole sur laquelle on lisait « Paix en Algérie », point final. Donc la capacité de mise en espace du politique, de dramaturgie politique, elle est quand même liée au phénomène de tolérance qui ont mis un certain temps à s'instaurer. Quant à l'appropriation de la symbolique de l'espace, la statue de Jeanne d'Arc, le mur des fédérés, la statue de la République, là aussi c'est un phénomène relativement lent. Le marquage symbolique parisien, il est là depuis les années 1880-90. En 1890, toutes les grandes statues parisiennes sont à peu près en place. Il y a un phénomène de saturation. On a parlé d'un passage de la statuomanie à la statuophobie. Dès lors qu'il n'y avait plus l'ombre d'un espace qui était disponible.
C'est la République qui se symbolise, qui se montre, qui se démontre.
C'est la République, absolument. Et d'une certaine manière, au tournant du siècle, après l'affaire Dreyfus, moi je dirais très volontiers qu'on bascule d'une situation où on marquait l'espace par la statuaire à une situation où ce sont les manifestations qui vont devenir les formes de marquage de l'espace.
Écoutez, ça y est, ça change, maintenant nous sommes derrière. Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se remrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants.
Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable. Mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang.
Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez ! Les étudiants chargent !
Il y a les policiers, ont reculé, même les CRS se font, ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers.
La manif, là, évidemment, vous avez compris, tout le monde a reconnu les manifestations de mai 68 à Paris. Alors, il n'y a pas... Ouais, ça c'est Gay-Lussac. Il n'y a pas que ce grand moment, évidemment. On a manifesté beaucoup, beaucoup dans notre pays. On continue de manifester. On aurait pu croire que, je ne sais quoi, le désengagement politique, la télé, que sais-je, allait décourager les Français de manifester. Ben pas du tout, ça continue et ça va continuer. Daniel Tartakovsky.
Attention François, il y a un pavé.
On descend dans la rue parce qu'on est contre le pouvoir, mais en fait, ou contre la politique, on croit qu'on est contre la politique, et en fait, on fait de la politique en descendant dans la rue.
La manifestation est éminemment politique. C'est ça. Éminemment, elle l'est toujours, y compris s'agissant de sujets qui n'ont pas de rapport direct avec le pouvoir ou sa politique. Elle l'est toujours d'abord parce qu'elle se déroule dans l'espace public. Beaucoup de grèves s'accompagnent de manifestations. C'est ce que moi j'appelle les manifestations d'appendices. Mais la grande différence entre la manifestation et la grève, c'est que la manifestation porte le débat dans l'espace public, sur l'espace public, et qu'à partir de là, elle interpelle nécessairement la totalité du corps social.
Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération,
nous sommes tous
les enfants d'immigrés.
Signe de bonne santé démocratique, signe d'une volonté d'intégration, signe de politique, en tout cas, même si c'est hors, évidemment, par définition, des institutions. Aujourd'hui, la manif. Alors on peut dire, mais à quoi ça sert? Moi je descends dans la rue, ça sert à rien, ça n'a rien changé, j'y retournerai plus. Eh ben, ça se passe pas comme ça. Ça c'est un raisonnement, on va dire, utilitariste, qui voudrait un résultat comme ça, une simple et pauvre relation de cause à effet. La manif et ceux qui manifent, consciemment ou pas, peu importe, eh ben produit des effets, mais indirects, c'est le principe du rhizome. C'est-à-dire que quelque chose se produit et puis semble disparaître et un jour ou l'autre ressurgit sans qu'on ait pu le prévoir, ça ressort. Et c'est après qu'arrivent les historiens dont tout le mal qu'on peut dire, c'est qu'ils savent parfois, quelquefois, prévoir le passé. C'est pas le cas de Daniel Tartakovsky, qui a consacré tout un livre à la manifestation, aux crises politiques et à leur relation avec les manifestations de rue dans notre beau pays. Le pouvoir est dans la rue.
Tous ensemble, tous ensemble,
allez,
tous
dans la manifestation, il y a un rapport entre la société civile, le peuple, enfin selon les époques, on va donner des qualificatifs différents aux gens. Et puis de l'autre côté, il y a le pouvoir quand même. Hein. Il y a le social et le national. C'est deux choses qui s'opposent. En quoi est-ce que la manifestation influe le pouvoir ? Est-ce que le pouvoir tombe ? Parce qu'on est dans la rue, on est en train de gueuler. Bah. Ah, bam, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il tombe ? Est-ce qu'on a vu déjà le pouvoir tomber ?
Alors, je crois que ce qui différencie fondamentalement la manifestation des émeutes, insurrections, révolutions, c'est le même espace, c'est la rue. Mais c'est que la manifestation permet de gérer les crises à l'intérieur du système politique existant. Donc, si par pouvoir, on entend tel ou tel ministre, oui, ça arrive, et ça arrive en particulier depuis les années 80. Si par pouvoir, on entend un gouvernement, ça a pu se produire la crise de 1934, encore que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'en 1934, on a eu démission d'un gouvernement régulièrement investi à gauche, sous la pression d'une manifestation l'extrême droite. Donc ça peut se produire, mais précisément, on est dans un cas limite où la manifestation cesse d'être une manifestation pour devenir quelque chose d'autre. En principe, la manifestation est un moyen de gérer les conflits, en France en tout cas, est un moyen de gérer les conflits à l'intérieur du système existant. La manifestation véhicule de la symbolique de part et d'autre. Il y a des codes qui sont tacitement admis par le pouvoir et par les manifestants, qui ne sont écrits nulle part, qui sont toujours susceptibles de remise en cause. On peut toujours mourir dans la rue. Mais c'est un moyen de dire autrement et de faire autrement et de faire entendre. Est-ce qu'on peut considérer que la dissolution de l'Assemblée nationale par Chirac est le résultat du mouvement de 95 d'une certaine manière, je dirais oui. Je dirais qu'on a un effet politique différé de la manifestation de 95 avec les résultats que nous connaissons. Mais il est bien évident qu'il y avait quantité d'autres causes que les mouvements de 95 qui ont amené Chirac à dissoudre l'Assemblée nationale et à procéder à ces élections anticipées. Donc des relations avec le politique de façon tout à fait centrale, mais pas de rapport direct.
Si bien que quand on descend dans la rue, on ne sait pas exactement les effets que ça produira.
Moi, je distingue fortement l'intention des manifestants et les effets produits. Prenons la crise de 1934. Mmh. Il y a eu une commune. Bon, 1934, l'extrême droite descend dans la rue. C'est le jour de l'investiture.
6 février 1934,
de Daladier, un radical. Daladier obtient une très forte majorité de voix à la Chambre des députés. La manifestation tourne à l'émeute et finalement il choisit de démissionner alors qu'il a été investi. Bon, donc d'une certaine manière, la rue, pour la première fois depuis l'histoire de la République, a eu raison d'un gouvernement et c'est la droite qui revient au pouvoir. Il y a une commission d'enquête parce qu'il s'est passé des choses graves. Il y a des morts. Il y a une vingtaine de morts. Il n'y en avait jamais eu autant dans les rues de Paris depuis la Commune de Paris. Donc l'échelle, évidemment, n'est pas la même, mais c'est la première grande manifestation très violente de l'histoire de la République.
Tout se passe sur le pont de la Concorde.
Tout se place devant la Chambre des députés.
Devant l'Assemblée. Oui, on disait Chambre des députés, oui.
Enfin, oui, l'Assemblée. Notre Assemblée nationale. Dans la commission d'enquête, on demande à chacune des formations en présence. Que vouliez-vous faire ? Et ils viennent tous dire, nous avons fait exactement la même chose que les jours précédents ou que les mois précédents, et c'est pas faux. La commission d'enquête se demande s'il y a eu complot, s'il y a eu négociation entre ces organisations, si elles voulaient renverser la République. Elles n'arrivent à rien de très probant, il n'y a pas eu de complot. De toute façon, ces organisations ont des objectifs très différents les unes des autres. Bon, le résultat produit, c'est quand même la capitulation d'un gouvernement devant les meutes de rue, avec de très graves conséquences pour l'avenir du Parti radical, et je dirais à terme des effets pervers, puisque le Front populaire finira, au travers de quelques épisodes, par sortir de cette crise ouverte en février 34. Je dirais très volontiers que le 6 février 34 produit, après quelques délais, le Front populaire, et que ça n'était évidemment pas dans l'intention des acteurs du 6 février 34.
Continuons le combat.
Eh oui, jamais gardez plus.
Continuons le combat.
Autre type de manifestation, la libération de Paris. Là, c'est un autre type de manifestation. Est-ce qu'on peut comparer ce que vous venez d'évoquer, les manifestations de 34 et la libération et cette fête au moment de la libération de Paris? Est-ce que vous appelez ça une manifestation, une fête?
Vous parlez de la descente des Champs-Élysées derrière De Gaulle. Pour moi, oui, j'appelle ça une manifestation de souveraineté. C'est une fête de souveraineté, en ce sens que le pouvoir organise sa mise en scène dans l'espace public, comme le 14 juillet. Mais cette fête de souveraineté devient une manifestation parce que la foule, le peuple, les gens conçus pour être spectateurs de cette descente officielle des Champs-Élysées s'inscrit derrière le cortège officiel, envahit tout l'espace public et manifeste derrière De Gaulle.
Le général De Gaulle vient de terminer son discours, les hymnes nationaux viennent de retentir à la TSF et en bas du bâtiment de la radio du 118 Champs-Élysées, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont groupées pour attendre les dernières nouvelles. Tout le monde entend la Marseillaise que vient de diffuser la radio. La circulation sur les Champs-Élysées est absolument interrompue. Les MP et les agents font ce qu'ils peuvent pour endiguer le flot des voitures. Je crois que mieux des paroles, l'enthousiasme de la foule vous donnera une idée exacte de ce qu'est aujourd'hui l'enthousiasme du peuple de Paris. Rien ne manque à la fête, le soleil est resplendissant, les avions des armées alliées prennent en enfilade les Champs-Élysées, toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains, et enfin retentissent les sirènes que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris! Papiers tricolores, bleu, blanc et rouge descendent de tous les balcons. Des cortèges se forment sur la chaussée des Champs-Élysées qui s'acheminent lentement et en bon ordre tout de même vers l'Arc du Triomphe. Dans cette foule innombrable qui est à mes pieds, car je suis pour l'instant au premier étage du bâtiment de la radio des Champs-Élysées, du 118 Champs-Élysées, c'est-à-dire juste en face de la station Georges V, des drapeaux de toutes nationalités ont fait leur apparition, toutes les nations des Alliés. Des monomes sont en train de se former, des soldats américains avec des wax remontent en farandole les Champs-Élysées. Toutes les voitures font donner leurs klaxons, les jeeps, les camions, les voitures civiles. C'est absolument du délire, le jour de la paix à Paris sera fêté dignement comme il se doit. Des barrières ont été installées le bord des trottoirs, mais ces barrières sont vraiment un obstacle trop fragile pour l'enthousiasme du peuple parisien aujourd'hui. Il y a bien longtemps qu'elles sont par terre. Que tout le monde est sur la chaussée, que tout le monde est sur le trottoir, que tout le monde crie sa joie avec une conviction, une ardeur certainement jamais égalée jusqu'à ce jour. Je n'ai pas eu la chance d'assister à l'armistice de 1918, mais je crois que la joie de Paris aujourd'hui à l'armistice de 1945 n'aura rien à envier à celle de 1918. Tout le monde s'embrasse dans la rue. Les soldats américains sont pris d'assaut, les soldats français, les soldats anglais. Tout le monde participe aujourd'hui à la fête. La forteresse volante vient de prendre en enfilade de l'avenue des Champs-Élysées, presque, je n'oserais pas dire en rase-motte, mais plus exactement en rase-toit. Les sirènes continuent à retentir, vous savez que le signal convenu est deux sons continus de 3 minutes. Et la foule maintenant se met en mouvement lentement, quittant l'aventure, la façade de l'établissement de la radio, pour remonter en criant sa joie vers l'Arc de Triomphe.
Alors évidemment, des documents bouleversants. On fait de plus en plus attention à nos archives, nos archives sonores. Évidemment, des documents comme ça nous bouleversent le cœur, non seulement parce qu'on aime la radio qu'on en fait, mais parce que c'est un très grand moment, de très très grands moments où l'émotion se mêle à la raison, où on est l'histoire, on fait l'histoire, on est dans le cœur même de l'histoire et on le sait, on le sent. Alors même si là il s'agit de plus de, effectivement, ce que dit Daniel Tartakovsky, plus de célébration que d'une véritable action
Mais la manifestation revêt ces différents caractères. Et là, on voit comment c'est pas seulement quelques nostalgies que les uns ou les autres pourraient avoir d'une manif auquel ou de plusieurs manifs auxquelles ils ont pu participer, mais c'est bel et bien petit à petit de slogans en chants, de marches en coups de cœur, en émotion, que notre histoire, qu'on le veuille ou non, se construit.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Alors un autre cas, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, c'est 1968. C'est un grand moment de la rue, un grand moment symbolique de la rue, qui s'inscrit aussi dans une mémoire des manifestations, notamment de la Commune, avec les barricades, avec... Il y a une référence à l'histoire de la manifestation.
Alors, ce qu'on appelle en France les grandes manifestations, c'est une formule qui surgit souvent quand on dit « il y a eu une grande manifestation ». Bon, bien sûr, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde, mais je crois que la notion de grande manifestation, et 68 en a évidemment été l'occasion par excellence... c'est moins la manifestation qui réunit beaucoup de monde, même si le nombre fait partie
du jeu, c'est très important,
que la manifestation qui est capable de réactiver l'histoire. Et alors en 68, on a effectivement brusquement une réémergence de toute une histoire que les politiques croyaient remiser au magasin des accessoires. Cette barricade qui brusquement, effectivement, ferme la rue mais ouvre la voie. La mémoire de 36, toutes les mémoires, ou presque toutes les mémoires, CRSSS, qui ressurgit sur les murs. Alors ce que les étudiants de 68 ne savent sans doute pas quand ils écrivent sur les murs CRSSS, c'est que CRSSS, on le trouve dans les corons miniers en 48.
Ah.
Dans les grandes grèves dites insurrectionnelles de 48. Donc il y a des espèces de circulation souterraine, des formes d'occupation de la rue. La forme barricade disparaît, puis ressurgit un jour. Certains mots d'ordre disparaissent, puis ressurgissent, au point que ceux qui en usent croient souvent les avoir inventés.
On parle constamment
de l'invention des formes. J'ai un collègue qui a travaillé sur les manifestations lyonnaises, Vincent Robert, au 19e siècle. Il a trouvé des sit-ins à Lyon dans les années 1830, à part que ça s'appelait évidemment pas comme ça. Bon, donc 68, effectivement, réémergence soudaine de l'histoire, et avec quels effets ? Parce qu'on a là un bel exemple de ces moments de l'histoire où la manifestation produit des effets qui n'entraient absolument pas dans les rêves les plus fous des organisateurs. Alors j'en prendrai deux exemples. Bon, c'est évidemment les barricades de la rue Gay-Lussac qui vont brusquement cristalliser tous les malaises latents dans le pays pour induire ce très puissant mouvement qui est le mouvement de mai-juin 68. Donc le rôle de la barricade, tant qu'il permet à des séries qui n'auraient jamais dû se rencontrer, de brusquement se rencontrer pour produire quelque chose de neuf. Et puis la manifestation du 13 mai 68, c'est-à-dire cette manifestation à l'appel de l'UNEF, bien sûr, des syndicats enseignants et des grandes confédérations ouvrières, qui ouvrent la voie à la grève générale, sans qu'aucune confédération n'ait appelé à la grève générale. Donc la manifestation est quelquefois capable d'amener des forces en lutte à prendre conscience de leurs forces et de se servir de leurs forces pour faire quelque chose d'autre.
Alors j'appelle Pierre Lantenac. Pierre Lantenac. Pierre Lantenac.
Tous les ouvriers devraient apparaître.
Allô, Pierre Lantenac.
L'antenne ?
Oui, tu l'as.
Bon, Pierre Lantenac ici. Je suis toujours rue Saint-Jacques et je dois dire que la tension qui tout à l'heure déjà était très grande, cette tension ne l'a pas baissée. Les étudiants sont en train de relever une autre barricade à l'intérieur de la rue Saint-Jacques afin d'éviter d'être tournés. Quant à la rue Gay-Lussac, eh bien, je crois que c'est l'axe principal de l'effort que mènent les étudiants.
Il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers. Nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Et c'est donc tous ensemble que vous venez d'entendre, d'écouter ou de réécouter une nouvelle diffusion de l'entretien de Daniel Mermet avec Daniel Tartakovsky, dont le livre, je vous le rappelle, s'appelle Le pouvoir est dans la rue. Il était paru aux éditions Aubier en 1998. À la technique, durant l'heure qui vient de s'écouler, il y avait Philippe Duclos et Sandrine Laurent, réalisation de l'émission Yann Chouquet et Coy Nguyen. Et puis pour les répondeurs, eh bien c'est Charles Charlotte Perry qui s'en occupe. Vous pouvez donc l'appeler dès maintenant au 01 56 40 37 37.